Gosh.
Donc effectivement, je suis Philippe de Joncas, je suis
Philippe, je m'assois.
Ah pardon. Donc je vais quand même, je ne suis pas sûr que vous sachiez tout ce que c'est qu'un blog, d'autant que c'est une terminologie qui m'est pas très agréable, parce que je préfère moi-même parler de journal en ligne. Donc, Laurent, si vous pouviez aller là. Donc en fait, pour un blog, c'est assez simple, on passe par un service qui va nous permettre la chose suivante. On va rentrer donc dans un espace qui est le mien, qui s'appelle donc le blog Notes du désordre. Est-ce que ça... Voilà. Donc là, on est un peu tributaire de choses qui vont beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc là, il faudrait faire Edit sur... En plus, on n'est pas un mulot un peu recalcitrant ici.
Parlez devant le micro, Philippe.
Voilà. Donc là, il faut juste modifier ça.
Ça, ici. D'accord.
Voilà. Et faire Post and Publish. Alors, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais rentrer mon identifiant et le mot de passe de mon site. On va me demander de le refaire, normalement. Donc, je m'excuse.
Pourquoi il fait ça? Il vous aime pas?
Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai transmis cet article. Donc on voit une photo de moi qui a été faite par Laurent ce matin. Donc je descendais cet escalier. Et descendant cet escalier, j'ai pu voir qu'il y avait ce tableau sur lequel on allait pouvoir voir ce qui se passe sur l'écran. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça, c'est absolument parfait, parce que c'est exactement ce dont je voudrais vous parler, c'est justement de ces espaces poreux entre le fait que je sois en train de descendre l'escalier ce matin, m'apercevoir qu'il y a cette possibilité-là, et effectivement de l'acter et de la publier immédiatement. Donc en fait, c'est ça le journal en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un journal qu'on tient pour soi-même, sauf qu'on le fait, je dirais, devant tout le monde. Dans le cas présent, devant vous, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut motiver la rédaction donc de ce journal en ligne? Pour ma part, j'y vois la volonté de saisir une part de l'immémorable. Quand je parle de l'immémorable, en fait, je fais référence au tout début du livre « Face à l'immémorable » de Louis-René Desforêts, dont je vais juste vous lire la première phrase qui me paraît assez signifiante. Cette masse indifférenciée, comme perdue sur un fond de grisaille, où la lumière n'a accès que par intermittence, et semble même de jour en jour se faire plus rare, quel langage serait assez chargé de désir pour lui donner relief et couleur, à moins de recourir aux artifices d'une transfiguration mensongère. Donc, je dirais que la motivation essentielle donc, à la tenue du journal en ligne, c'était un petit peu donc effectivement sauver de la masse de tout ce qui peut être vécu et qui s'entasse les choses les unes sur les autres, d'essayer de les sauver de cette masse-là. Et en fait, on rejoint, je dirais, trois préoccupations de la littérature. Enfin, je vais vous parler essentiellement de littérature, je préfère vous prévenir. Et disons que les trois mémoires que je retiens de la littérature, c'est donc la mémoire involontaire, donc celle-ci c'est évidemment en référence à la recherche du temps perdu. C'est cette mémoire qui fait que, par exemple, je trouve dans un de mes livres que je n'avais pas lu depuis des années, un signet qui m'indique que c'est un bout de carte postale que j'ai reçu en été à tel endroit, et je me rappelle effectivement quelles étaient les conditions de cette lecture. Par ailleurs, j'ai aussi la possibilité d'une mémoire collective, et alors là, je vais penser davantage au livre de Joe Brainard qui s'appelle « I Remember » et dont Georges Perec en fait s'est inspiré pour faire « Je me souviens ». Possibilité d'une mémoire collective. Et donc, dernière possibilité, je dirais, de la mémoire littéraire, l'ultime possibilité, c'est la mémoire du témoin, justement parce que nul ne peut témoigner pour le témoin. selon la phrase de Peter Handke, et là je parle des heures les plus sombres de la mémoire collective, et donc les témoins dont je parle sont évidemment les auteurs comme Primo Levi, Robert Antelme, Elie Wiesel, et de façon peut-être plus récente, puisque c'est une histoire qui concerne davantage la France, la question d'Henri Alleg. Donc ça, en fait, les motivations... les motivations à la tenue du journal en ligne, ça peut être ça, justement. Et il y a... Bon, ça, c'est pas très charitable. Voilà, donc j'ai perdu le fil de ce que je disais, c'est vraiment...
On était sur un thème.
Excusez-moi, j'ai pas du tout l'habitude de parler en public et on fait absolument rien pour m'aider. Donc je vais plus regarder ce que fait mon camarade. Donc cette motivation, en fait, quand il y a des événements qui se produisent, enfin, qui moi me touchent tout particulièrement, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ce qui se passe en Palestine est une chose qui moi m'oppresse énormément, de même qu'en 1995, ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine m'oppressait. Je trouve intéressant qu'on puisse effectivement aller se connecter et lire les journaux en ligne, les blogs de personnes palestiniennes qui vivent, je dirais, dans l'assombrissement complètement de leur vie. Donc ça, c'est je dirais, c'est une des possibilités du blog. Voilà, donc ça, c'était un premier point pour ce qui était de la motivation. De même, il y a donc un autre point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est la tentation du récit récursif. C'est-à-dire que dans toute chronique, il y a réellement la tentation de se chroniquer soi-même chroniquant. Et ça, je dirais qu'il y a donc un des exemples les plus frappants de ça, au-delà de la petite illustration que j'ai faite en introduction, qui consistait donc à vous montrer comment j'étais chroniquant, il y a la participation donc de LL de Mars à la Dame Project, et qui s'appelle Ce qui fait écran. Et en fait, c'est une chronique de toute une journée assez besogneuse, en fait, qui est passée justement devant l'écran et dans laquelle on voit effectivement une frontière. Oui, c'est ça, véritablement poreuse entre, je veux dire, le monde de ce qui est assis et le monde de ce qui se passe, de ce qu'il fabrique sur son écran. Alors, je vais juste vous en lire quelques remarques. Hein, je suis très conscient que je ne suis pas un très bon orateur. Je vais vous donner ensuite l'adresse sur laquelle vous pourrez consulter le texte qui sous-tend en fait ce que je vous dis maintenant. Donc, parmi donc la chronique de LL de Mars, il y a ces quelques phrases. « Qu'en est-il d'une vie pour celui-même qui la traverse, d'une journée et de sa relation, la relatation de l'immense trajet qui sépare un acte du moment où il sera confié, décrit. Plus je travaille avec des machines et plus la membrane qui sépare les notions d'outillage virtuel et physique me semble poreuse. Il s'agit de mettre en ligne un album de photographies consacré à la fabrication d'un numéro de ma revue littéraire, MMI. Pourquoi cette chronique ? Sans doute le sentiment que l'énorme quantité d'énergie, de temps passé sur ce boulot doit être mise en évidence, et en premier lieu pour moi-même. Quand un travail est achevé, disparaît avec lui, de ma mémoire, tout ce qui l'a précédé. En dehors de l'inévitable vanité qui conduit à rendre publique une image largement orchestrée de sa vie, et peu importe la forme choisie pour la faire miroiter, il y a tout de même quelques points d'importance qui, je crois, rendent ceci plus crucial que le seul narcissisme. J'ai le sentiment que ma vie est tout entière résumée à mon travail, ce qui temporellement semble vrai. Où sont les interstices ? Et conceptuellement plus encore, il n'y a pas d'intérim artistique, c'est le seul métier auquel chaque seconde de celui qui s'y donne appartient. Mais si une chronique est possible sur ce travail, c'est que ma vie peut s'aménager une extériorité. Et si une chronique est possible sur cette chronique, etc., etc. Quand je réfléchissais donc à ce matériel avec lequel j'allais pouvoir m'entretenir avec vous, cet après-midi. C'est un travail qui m'a occupé en fait une semaine entière. Et dans la construction de ce travail, quand je tenais justement le journal, mon journal de bord, mon journal en ligne, j'en étais à parler de ce que j'étais en train de faire, de ce que j'étais en train d'écrire sur le sujet d'aujourd'hui. Il y avait un effet de mise en abîme, de récit récursif qui, moi, me paraît étourdissant. Mais comme le faisait remarquer Laurent, moi, je suis davantage du côté des artistes plutôt que de celui des théoriciens. Donc, je peine un petit peu à vous dire c'est cette préoccupation. Il y a un livre qui vient de sortir et qui en fait montre bien qu'il y a une réelle possibilité donc d'utiliser le journal en ligne pour faire œuvre de fiction. Donc ce livre s'appelle La Maison des Feuilles d'un auteur américain qui s'appelle Mark Danielewski et qui vient d'être traduit. Et avant d'être en édition graphique, ce livre existait sous une forme internet. Et en fait, ce livre est la chronique d'un labyrinthe. Et le récit est labyrinthique et il est appuyé par un nombre incalculable de renvois en bas de page qui finissent par tisser eux-mêmes un véritable labyrinthe textuel. Et en fait, vous l'aurez compris, je veux dire, je trouve pas une grande spécificité au journal en ligne, si ce n'est qu'on écrit sous la lecture de l'autre, ce qui est quand même assez curieux, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le texte soit terminé. L'autre nous voit chroniquant, enfin je veux dire, on voit pas le brouillon, mais on voit éventuellement différentes phases, le lecteur voit différentes phases de l'écrit. Pour terminer, ce que j'aimerais donner une piste en fait de quelque chose qui est assez réalisable en matière de blog et de journal en ligne et qui apparemment n'est pas du tout exploité, c'est justement l'œuvre de fiction. Et je voudrais juste vous donner un exemple. Je veux dire, que diriez-vous d'un journal en ligne que vous consulteriez pour la première fois et qui commencerait par ces quelques lignes ? J'ai pris la décision de quitter ce monde dans 5 mois pour des raisons personnelles qui seraient trop longues à expliquer et énumérer ici. De même que le délai de 5 mois pourra en tout état de cause paraître arbitraire, les raisons qui m'ont conduit à le déterminer seraient également fastidieuses et soporifiques à éclaircir. Réalisant pleinement qu'il s'agissait là d'une décision capitale, pour ainsi parler, à ne pas prendre à la légère, et bien qu'elle fût assez facile à prendre, je me suis appliqué à résoudre le respect impérieux du délai d'une manière que d'aucuns jugeront alambiquée. Je lui trouve cependant l'indéniable avantage d'être efficace. En effet, je me suis arrangé par l'entreprise d'un ancien collègue de travail avec lequel je garde de bonnes relations, bien qu'épisodiques, pour contacter ce qu'on appelle communément un tueur à gages. Donc, en fait, il y a la possibilité, vous lisez ça, le fait que ce soit écrit sur un journal en ligne lui donne une véracité qui fait que vous êtes amené à douter de ce que vous lisez en tant que fiction, et par conséquent, vous adhérez davantage à la fiction. Et malheureusement, cette possibilité, je la vois très peu exploitée, si ce n'est de temps en temps par moi-même, quand je m'amuse à faire des blagues à mes amis en leur envoyant des emails comme ceci. Voilà. C'est pas très cher.
Bien. Pour une communication qui ne devait pas concerner la forme, on a été servi, je pense, quand même.
On fait de notre mieux. Hein.
Alors, par contre,
excusez-moi. J'ai vraiment conscience, c'est assez terrible. Pour moi, la confrontation au public n'est pas très aisé. Sur le site du désordre, il y a l'intégralité donc de ce texte que vous pouvez télécharger tout à fait à loisir et dans lequel il me semble que j'exprime avec davantage de clarté ce que j'ai essayé de faire maintenant. J'en suis pleinement conscient, je vous prie de m'en excuser.
Vous trouverez aussi, je pense, d'ici peu le compte rendu et puis les textes des deux allocutions sur le terrier, sur le désordre, accompagné d'un album photographique commentant cet après-midi où on prend quelques photographies.
D'accord. Je pense qu'il était explicite que cette communication, qui n'est pas une communication, visait pas particulièrement à ouvrir un débat. On a bouclé étrangement avec la première communication, j'en dirais, de Mouster, mais plutôt à être entendu. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. On est dans les...
Un petit peu, peut-être. Effectivement, ce n'est pas des questions transclassiques par rapport à la communication, parce qu'elles seront assez décalées par rapport à ce que j'ai vécu hier en vous écoutant.
Je suis désolée. Voilà.
De cette prise parole d'artiste qui nous change très agréablement de nos
réponses. Oui, je vous en prie.
Et qui à la fois était complètement dans le sujet, à bien des écarts. Donc, de ce point de vue-là, j'étais vraiment très contente. Donc, je vais avoir l'air de poser des questions extrêmement polémiques et provocatrices, mais ce n'est pas du tout comme ça que je
vais.
Mais ce n'est pas grave, parce qu'à la fois, ces questions-là se posent, et moi, ça m'intéresse que vous nous lanciez des pistes. Il y avait, dans le texte premier, il n'y a pas d'intérim pour l'artiste.
En fait, non.
Laisse-la parler, enfin.
Moi, il m'arrive aussi dans un moment d'écriture, y compris en tant que chercheuse, qui par ce moment a des statuts qui peuvent se rapprocher de l'artiste, d'être dans cette problématique-là. Il demeure que dans l'ensemble du dispositif, avec y compris ces journaux en ligne, etc., est-ce qu'on ne retombe pas dans une sorte de mythe romantique de l'artiste, obligé de vivre son statut comme un destin à chaque seconde et surtout non, pas comme un métier avec la distance qui se suppose. Est-ce qu'on ne retombe pas là dans une mythologie de l'ego, même si elle est à la fois distanciée par les dispositifs de journaux en ligne tels que vous les gérez?
Mais je ne sais pas, je pense qu'on va avoir deux réponses qui seront...
Qui vont peut-être être
différentes, mais moi je pense que ça, en ce qui me concerne, ça ne relève pas du choix. C'est assez curieux, c'est-à-dire c'est malgré tout c'est un choix de vie, mais c'est quelque chose, je saurais pas faire autrement en fait. Je n'y réfléchis pas beaucoup, mais c'est une nécessité qui m'habite réellement, c'est-à-dire que à certaines époques j'ai essayé de ne plus faire ce que je faisais. Donc je veux dire, même titre que mon camarade, je suis sorti des arts déco, je faisais beaucoup de photographie. À un moment c'était quelque chose qui n'était pas compatible avec le reste de ma vie. J'ai arrêté et j'en ai fait une dépression nerveuse immédiate, quoi. Ça a mis très peu de temps. Quand Laurent parle qu'il n'y a pas d'intérim, moi c'est un propos auquel je souscris complètement. Et ça ne se fait pas uniquement dans la douleur, mais c'est effectivement une préoccupation qu'on ne peut pas amoindrir, quoi. Elle est inextinguible.
Ça n'est pas ça qui va ôter le romantisme à l'affaire. Hein?
Non, c'est vrai.
C'est sûr.
Je corrigerai quelques petits détails quand même. Un détail qui est... le premier est de l'ordre de l'organicité. C'est-à-dire que en gros, artiste et reste du monde, on ne joue pas vraiment dans la même catégorie. Si je dis qu'il n'y a aucune fracture entre... À aucun moment, il n'est possible d'insinuer dans la vie d'un artiste quelque chose qui ne ressortisse pas de son métier, c'est que son métier est probablement celui qui seul peut permettre à ce point l'advention du sujet, ceci jusque dans la production de ses propres organes. Et ce n'est pas une métaphore. Le travail d'atelier, c'est l'invention de son propre corps. D'autre chose, vous parlez de l'ego, il n'en est pas question ici. Moi, ce dont je vous parle, c'est du sujet. L'ego m'est complètement indifférent, c'est une catégorie qui ne m'intéresse pas. Je vous parle du sujet, c'est-à-dire que là aussi il y a une consubstantialité entre ce que je vous dis, ce dont je vous parle et le lieu duquel part ma parole. Rien de romantique dans tout ça. Le romantique s'accable du réel, le pauvre est malheureux de cette percussion continue. Moi le réel, je sais que ça n'existe pas et ça ne m'intéresse pas. La réalité m'intéresse en tant que c'est moi qui la produis, qui l'invente. Et ceci, c'est aussi mon métier d'artiste qui me permet de le faire. Ça répond à être...
J'aurais dû laisser répondre. Oui, non, c'est vrai, mais... Ouais.
Mais moi aussi, je suis très malheureux, tu sais.
J'ai pas dit que j'étais malheureux, moi.
Non, mais quand ça s'arrête...
Quand ça s'arrête, c'est terrible.
Je pense que s'il n'y a pas d'intérim pour l'artiste, il y a un intérim pour le colloque. Et moi, je représente le colloque et pas l'artiste. Donc, je vous propose... On garde les horaires, Brigitte?
Oui, non, enfin, moi, je représente l'horloge ou je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression, là, j'arrive 5 ou 10 minutes trop tard, je vraiment m'en fâche.